Vous écoutez On lit pour vous.
Abus sexuel. Les enfants avec une déficience intellectuelle sont plus à risque. Un texte de Béatrice Saint-Cyr-Leroux, paru le 6 novembre 2024 dans UDEM Nouvelles. Les enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle sont non seulement plus susceptibles d'être victimes d'abus sexuels, mais les conséquences de ces agressions les affectent plus lourdement. Selon une nouvelle étude, ces jeunes sont 3,5 fois plus à risque de faire l'objet d'un rapport d'abus sexuel corroboré que leur père, sans troubles neurodéveloppementaux, et ces abus entraînent un plus grand nombre de consultations de spécialistes pour des problèmes physiques et mentaux qui en résultent. Ces enfants auraient ainsi davantage de problèmes de santé, tant sur le plan physique que sur le plan mental, que les jeunes sans déficience intellectuelle qui ont été agressés sexuellement et que ceux ayant une déficience intellectuelle mais qui n'ont pas subi d'agression sexuelle. Nous savions déjà que les jeunes présentant une déficience intellectuelle étaient surreprésentés dans les groupes d'enfants ayant subi un abus sexuel, mais nous n'avions pas jusqu'ici de données longitudinales, dit Isabelle Daigneault, chercheuse principale de l'étude et professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Car cette étude croise pour la première fois des données issues de la Régie de l'assurance maladie du Québec et du ministère de la Santé et des services sociaux couvrant une période de 17 ans, avec des informations sur 10 années provenant de la Direction de la protection de la jeunesse, tous facteurs socio-économiques contrôlés. Des spécificités à prendre en compte. Pour Isabelle Daigneault, cette surreprésentation peut notamment s'expliquer par le contexte social dans lequel évoluent les enfants qui ont une déficience intellectuelle. De manière générale, ces jeunes sont plus tôt et plus souvent confiés à des personnes extérieures à la famille. Et l'absence d'un gardien est un facteur de risque, puisque les gens tentés d'abuser d'un enfant vont profiter de cette situation de vulnérabilité, note-t-elle. Aussi, poursuit la chercheuse, ces enfants pourraient avoir plus de difficultés à s'exprimer pour obtenir de l'aide et à réaliser qu'une situation est inadéquate. Rappelons que les abus sexuels ne sont pas toujours violents. Ils peuvent se présenter sous forme de chantage et de manipulation, des manifestations plus insidieuses. Il est donc moins probable que l'enfant signale rapidement la situation, souligne la psychologue. On peut supposer que les séquelles plus importantes peuvent justement découler du fait que les abus durent plus longtemps. Que faire ? Peu ou pas de moyens sont mis en place pour faire face à cette réalité, signale d'emblée Isabelle Daigneault. Il faut avant tout soutenir le développement des enfants pour s'assurer qu'ils deviennent des adultes et des parents qui n'abusent pas des enfants tout en les outillant pour aller chercher de l'aide s'ils vivent eux-mêmes une situation d'abus, croit la professeure. Donc, encourager une éducation à la sexualité qui aborde de front les violences sexuelles. Mais également, une éducation adaptée pour les enfants aux prises avec une déficience intellectuelle, puisque certains n'en reçoivent pas du tout, faute de programmes adaptés, précise la chercheuse. Une sensibilisation devrait ainsi être faite pour que l'enfant parvienne à désigner les contextes à risque, puis sache reconnaître ses besoins et poser ses limites. Parallèlement, Isabelle Daigneault ajoute qu'il n'existe pas d'intervention appropriée visant à réduire les séquelles et à éviter les récidives à l'égard de ces enfants vulnérables. Elle suggère, par exemple, de créer des programmes de prévention adressés aux parents afin de mieux les informer quant aux risques et d'accroître leur supervision. Il faut aussi mettre sur pied des programmes pour les jeunes victimes qui permettraient de cibler les facteurs associés à la revictimisation, conclut-elle. C'était « Abus sexuels, les enfants avec une déficience intellectuelle sont plus à risque », un texte de Béatrice Saint-Cyr-Leroux, paru le 6 novembre 2024 dans UDEM Nouvelles.
Deux membres de la communauté de l'Université de Montréal sont lauréats d'un prix Hippocrate. Un texte de Lune Wagner paru le 5 novembre 2024 dans UDEM Nouvelles. En octobre, des prix Hippocrate, qui mettent en lumière des projets novateurs dans le domaine de la santé, ont été accordés à E-Labo et Cœur en visite, conçus par deux membres de l'Université de Montréal. Ils sont respectivement lauréats du prix Innovation, amélioration de l'expérience des usagers et usagères, et du prix Innovation de la relève, projet émergent. Ces récompenses, remises chaque année, valorisent les initiatives apportant une réelle valeur ajoutée aux soins aux patients et au travail du personnel médical. E-Labo. E-Labo, une initiative de l'Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé, affiliée à l'Institut de recherche clinique de Montréal, IRCM, et mise sur pied par Éric Racine, se définit comme un laboratoire d'éthique vivante. Professeur titulaire au département de médecine et au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal, Éric Racine est un chercheur de renom dans le domaine de la bioéthique. Il est l'auteur des ouvrages « Pragmatic Neuroethics, Improving Treatment and Understanding of the Mind-Brain », publié au MIT Press, et « The Theory of Deliberative Wisdom », qui paraîtra chez le même éditeur en 2025. Il est également directeur de l'Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé et titulaire de la chaire en éthique vivante de l'IRCM. L'objectif principal du projet du chercheur est de démocratiser l'éthique, plus particulièrement dans le milieu de la santé, en répondant aux besoins en matière de formation en éthique et d'accompagnement dans les programmes de soins et de services. Le laboratoire a travaillé sur une meilleure prise en charge de la détresse psychologique associée aux maladies chroniques complexes et aux maladies rares. Il a conçu un formulaire préparatoire aux rendez-vous médicaux permettant une prise en charge plus globale des patients et un guide de ressources destiné au personnel clinique. Cœur en visite. L'idée de Cœur en visite a pris forme au cours d'une activité hebdomadaire d'étudiants et étudiantes en médecine, visiter des patients dans les hôpitaux. Une grande partie des patients affichaient un sourire radieux lorsqu'ils accueillaient des visiteurs, notamment les personnes hospitalisées de longue date qui souffraient de l'isolement. C'est ainsi qu'Otman Zekraoui, étudiant de deuxième année en médecine et titulaire d'un baccalauréat en sciences biomédicales, a lancé le projet. Plusieurs organisations ont été mobilisées, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal, un établissement qui regroupe une pluralité d'hôpitaux, de centres d'hébergement et de soins de longue durée et de centres de réadaptation. Des étudiantes et des étudiants de divers programmes de l'Université de Montréal sont jumelés avec les patients à qui ils offrent de la compagnie. Aujourd'hui, ils sont plus de 60 à faire vivre la cause et près d'un demi-millier de patients ont bénéficié de ce soutien. Bientôt, Cœur en visite s'étendra à l'extérieur de Montréal et ouvrira ses portes à la communauté étudiante d'autres établissements d'enseignement comme l'Université de McGill, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke et le Collège Jean de Brébeuf. C'était « Deux membres de la communauté de l'Université de Montréal sont lauréats d'un prix Hippocrate ». Un texte de Lune Wagner paru le 5 novembre 2024 dans UDEM Nouvelles.
Une première expérience paralympique pour une psychologue sherbrookoise. Un texte d'Anthony Wallet paru le 10 septembre 2024 dans La Tribune. Véronique Boudreau revient à peine de ses premiers Jeux paralympiques. Ce n'est toutefois pas comme athlète que la professeure de l'Université de Sherbrooke, U2S, a foulé le sol des grands lieux de compétition parisiens, mais comme psychologue auprès de la délégation canadienne. Durant 2 semaines, celle qui est psychologue spécialisée dans les sports a pu accompagner les quelques 300 personnes, dont 126 athlètes, de l'équipe paralympique canadienne. Citation : De voir ces athlètes performer et d'être avec eux, c'était grandiose. Fin de citation, se souvient-elle, toujours sur un high et avec un peu de blues post-olympique quelques jours après son retour à Sherbrooke. Avec le soutien de la Faculté des sciences de l'activité physique de l'U2S, où elle est professeure, elle est devenue l'une des 2 psychologues de la délégation du Canada à Paris. Citation : On n'est pas beaucoup au pays à être des psychologues cliniciens qui ont une expertise en sport. Après ma formation, je me suis impliquée dans plusieurs comités nationaux. Je me suis bâti un réseau à travers le temps qui m'a permis d'avoir l'un des postes. Le premier était pourvu par une psychologue qui travaille pour le comité paralympique contractuellement, mais il cherchait quelqu'un qui parlait français aussi. Fin de citation, explique la professeure Boudreau. Son rôle était somme toute différent de celui d'un psychologue régulier, expose-t-elle, en ce sens qu'elle devait s'intégrer à l'équipe, contrairement au rôle habituellement plus discret de sa profession. Citation : Tu dois te fondre un peu dans le décor, tout en faisant partie de l'équipe. Tu dois créer des liens pour que les gens aient confiance qu'ils peuvent venir te parler. Fin de citation, dit-elle. Cette proximité a été un défi, révèle Véronique Boudreau, qui ne cache pas qu'elle était beaucoup plus touchée qu'à l'habitude par ces rencontres. Citation : Ces athlètes ou ces entraîneurs qui viennent te demander de l'aide, tu les côtoies dans leur quotidien. Je suis allée les voir performer dans leur compétition. Pour moi, il y avait énormément d'intensité et c'était très touchant. Fin de citation, indique-t-elle. Très intense. Intensité, le mot revient souvent durant l'entrevue avec la professeure Boudreau. Autant de son côté que de celui des athlètes et autres membres de la délégation, les Jeux paralympiques sont véritablement un amplificateur d'émotions. Cette réalité ressortait d'ailleurs souvent dans les rencontres que la psychologue pouvait avoir avec les gens sur place. Citation : C'est une période intense pour tout le monde. C'est difficile à expliquer, car c'est vraiment unique. Les rencontres, les compétitions, la performance, les succès, les déceptions, les enjeux interpersonnels difficiles, toutes les émotions liées à ces aspects sont plus intenses. Fin de citation, souligne-t-elle. Le stress par rapport au niveau de performance et les problèmes interpersonnels, inévitables quand beaucoup de gens se trouvent poignés pendant 2 semaines dans une petite bulle, sont 2 réalités non négligeables qui rendent la présence de psychologues sur place importante, estime Véronique Boudreau. Mais, au-delà de tout, la résilience des athlètes l'aura marqué. Citation : J'ai beaucoup d'admiration pour ces athlètes et les entraîneurs aussi. C'est extraordinaire de voir ce qu'ils sont capables de faire, le stress qu'ils peuvent endurer et le niveau de performance qui leur est demandé. La pression vient de partout. Fin de citation, image la professeure Boudreau. Citation : Il y a aussi plusieurs particularités au sport paralympique, poursuit-elle. J'ai découvert plusieurs nouveaux sports. Souvent, les athlètes arrivent avec un bagage. Certains sont nés avec une limitation. D'autres l'ont acquise et d'autres vivent avec une maladie dégénérative. La résilience de ces athlètes est à un niveau très inspirant et admirable. Fin de citation. Les Jeux paralympiques ont officiellement pris fin dimanche. Le Canada y a terminé au 12e rang avec une récolte de 10 médailles d'or et 29 médailles au total. C'était une première expérience paralympique pour une psychologue sherbrookoise. Un texte d'Anthony Ouellet, paru le 10 septembre 2024 dans La Tribune.
Plus de 4 millions de dollars pour le transport adapté à Sherbrooke. Un texte de Zoé Bellumeur, paru le 4 novembre 2024 dans Ici Estrie. La Société de transport de Sherbrooke, STS, reçoit une aide financière de 4,2 millions de dollars de Québec pour son transport adapté. Ce montant va financer les prestations de services de transport aux personnes handicapées. Il s'agit d'une aide financière de 416 363 $ de plus qu'en 2023. Les députés de Saint-François et de Richmond, Geneviève Hébert et André Bachand, étaient à Sherbrooke lundi pour en faire l'annonce. Ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, le député de Granby, François Bonnardel. Cette subvention contribuera à ce que les Sherbrookois et Sherbrookoises à mobilité réduite puissent se déplacer librement et participer pleinement à la vie collective, peu importe leurs limitations physiques, soutient Geneviève Hébert par voie de communiqué. Une offre de transport adapté de qualité est essentielle afin de favoriser l'inclusion et de briser l'isolement d'une partie de notre population. Une citation de André Bachand, député de Richmond. Cette aide financière annuelle permet d'assurer le maintien du service de transport adapté offert, dont le nombre d'ennemis est en croissance, renchérit la présidente de la STS, Laure Le Tarte-Lavoie. C'était plus de 4 millions de dollars pour le transport adapté à Sherbrooke, un texte de Zoé Bellumeur paru le 4 novembre 2024 dans Ici Estrie.
Rouler à 100 000 à l'heure. Un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 3 novembre 2024 dans La Presse. On lui donnait 40 ans à vivre. Il est rendu à 42 et il profite de chaque minute comme si c'était la dernière. Quitte à étourdir son entourage et à donner des sueurs froides à sa mère. « Moi, j'ai encore 16 ans », lance Jean-François Fortin, les yeux bleus rieurs, assis dans son fauteuil roulant. Il souffre d'amyotrophie spinale de type 2, une maladie héréditaire génétique rare qui entraîne une dégénérescence des muscles, y compris ceux essentiels à la respiration et la déglutition. Quand j'étais jeune, j'étais capable de me tenir debout, de manger seul, explique-t-il, attablé dans la cuisine de la maison familiale, muni d'un ascenseur. Avec le temps, on perd toutes nos capacités. L'informaticien, qui habite avec ses parents et sa sœur cadette atteinte de la même maladie, a besoin d'assistance pour effectuer toutes ses activités quotidiennes. Mais ça ne l'empêche pas de sauter en parachute. Il l'a fait, et de voyager. Il y a deux semaines, il s'est envolé pour la Colombie avec son père et un ami. À l'heure actuelle, il se fait probablement dorer la couenne sur une plage. Il déguste un calentado, un déjeuner traditionnel colombien qu'il adore, où il sillonne le pays en autobus. Tout ça grâce au progrès de la médecine. Depuis 3 ans, Jean-François Fortin reçoit des injections de Spinraza, un médicament qui a stoppé la progression de sa maladie. Il est aussi suivi par une inhalothérapeute du Programme national d'assistance ventilatoire à domicile, PNAVD, affilié au Centre universitaire de santé McGill, CUSM. Le PNAVD lui donne accès à un appareil respiratoire connu sous le nom de BiPAP et un autre d'assistance à la toux. Il dort avec le premier et utilise le second chaque jour pour dégager ses sécrétions et entraîner sa cage thoracique afin qu'elle demeure souple. Son inhalothérapeute, Véronique Adam, peut suivre à distance ses données respiratoires et même modifier les paramètres de son BiPAP au besoin. On lui permet d'avoir une qualité de vie, dit l'assistante chef clinique du PNAVD au CUSM. S'il n'avait pas ces appareils-là, il serait hospitalisé. Jean-François Fortin s'est retrouvé à plusieurs reprises aux soins intensifs en raison d'infections pulmonaires. Ce n'est plus le cas depuis 2010, soit depuis qu'il a recours à ces appareils. Il se sent flambant neuf après une nuit de sommeil de 8 ou 10 heures avec son BiPAP. Il traîne toujours l'appareil dans son sac à dos, avec 3 paires de bobettes, parce que tu ne sais jamais combien de temps tu vas partir, précise-t-il, le sourire en coin. La maladie, pas un obstacle. De son propre aveu, Jean-François Fortin aime bien faire la fête. Il ne s'est jamais laissé arrêter par la maladie. Ses nombreux voyages, tous immortalisés sur son dos par des tatouages, en témoignent. Il y a des médecins qui veulent te décourager et te disent « Tu ne devrais même pas voyager, sortir de chez vous », raconte Jean-François Fortin. Il ne les écoute pas. Il ne les voit tout simplement plus. Selon Véronique Adam, des préjugés perdurent envers les gens dans ces situations. Le personnel de la santé a souvent des opinions un peu mitigées sur la qualité de vie des patients avec des handicaps, affirme-t-elle. Souvent, ils pensent que tu ne fais rien dans la vie. Mais il y a de bons samaritains, comme ce chauffeur de taxi qui l'a reconduit chez lui à Terrebonne, l'a couché dans son lit et lui a installé le masque de son BIPAP pour ne pas qu'il réveille ses parents durant la nuit. Et ces locaux en Colombie, devenus des amis, qui acceptent d'entreposer son matelas en mousse mémoire ou son hachoir à viande. Il doit manger des aliments mous, sinon il risque de s'étouffer, en vue de son prochain séjour là-bas. JF, comme le surnomme son inhalothérapeute qui le suit depuis 15 ans, a le don de se faire des amis partout où il passe. Il a du charisme. Il est toujours partant pour participer à des projets, ajoute Véronique Adam. Il figure d'ailleurs dans des vidéos de formation destinées aux professionnels de la santé. Avec son témoignage dans la presse, Jean-François Fortin veut encourager les gens souffrant d'une maladie neuromusculaire comme lui à recourir aux appareils respiratoires qui peuvent les maintenir en vie. Au départ, il s'était montré récalcitrant à les utiliser. Il veut aussi éduquer le monde. La population qui voit des machines, au début, c'est comme si tu es un extraterrestre. Mais de plus en plus, le monde ne me regarde même plus. Jean-François Fortin rêve maintenant de visiter la Grèce, un projet qui pourrait bien se réaliser. « J'attendais de trouver quelqu'un de fort, » dit-il, badin. « De fort? C'est rien que des marches là-bas. » Jean-François Fortin a trouvé quelqu'un. Ne reste plus qu'à adapter les roues de son fauteuil roulant pour continuer de rouler à 100 000 à l'heure. C'était « Rouler à 100 000 à l'heure », un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 3 novembre 2024 dans La Presse.
La DPJ de Laval montrée du doigt par la Commission des droits de la personne. Un texte de Daniel Boily et David Gentilet, paru le 7 novembre 2024 dans Radio-Canada. Lorsque le CI3S de Laval a décidé en décembre dernier d'intervenir à l'unité Le Jardin, une résidence spécialisée qui hébergeait une dizaine d'enfants atteints d'autisme ou d'une déficience intellectuelle, la situation y était décrite comme préoccupante. Des gestionnaires du CI3S y ont été placés 24 heures sur 24 et la main-d'œuvre indépendante a été retirée afin d'assurer une stabilité du personnel, avait alors expliqué le directeur général adjoint du CI3S de Laval, Majorique Bouchard. La résidence allait être fermée quelques semaines plus tard et les enfants transférés. Or, dans le rapport d'une enquête déclenchée de sa propre initiative, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, conclut que les jeunes hébergés à l'unité Le Jardin ont été exposés à des situations qui ont compromis leur sécurité et leur intégrité entre mars et novembre 2023. Parmi les lacunes relevées, la commission a constaté une évaluation incomplète des besoins des enfants, le non-respect du droit à un hébergement dans un lieu approprié et des manquements aux obligations de signalement de situations potentielles de maltraitance. Le rapport fait également état d'une absence de diligence du directeur de la protection de la jeunesse, DPJ, à plusieurs étapes de l'intervention, ainsi que de l'absence de démarches visant à mettre fin à des situations de compromission et à éviter qu'elles se reproduisent. La Commission reconnaît que des améliorations ont été apportées, mais elle recommande que les enfants aient des milieux de vie adaptés à leurs besoins. Elle demande aussi au CI3S et à la DPJ de Laval de rappeler aux intervenants leur devoir de signaler toute lacune pouvant nuire aux enfants dont ces établissements sont responsables. Comme le précise la vice-présidente de la CDPDJ, Suzanne Arpin, la Commission assurera un suivi rigoureux auprès des responsables afin de garantir la mise en œuvre de ces recommandations et des engagements pris en cours d'enquête. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour mettre en œuvre les recommandations de la CDPDJ. Les enfants qui étaient hébergés à l'unité Le Jardin sont des enfants vulnérables en situation de handicap. Leur sécurité et leur développement ont été compromis. Tant le CI3S que le DPJ doivent s'assurer que les droits de ces enfants soient respectés et que les situations qu'ils ont vécues ne se répètent pas avec d'autres enfants. Une citation de Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. « Trouver un nouveau lieu. » Selon nos informations, les enfants devront à nouveau déménager d'ici quelques mois. Le CI3S de Laval a appris au début octobre que les propriétaires de deux ressources d'hébergement allaient cesser leurs activités. Le personnel du CI3S a pris la relève en attendant de trouver un autre lieu d'hébergement approprié. Par ailleurs, la Commission a indiqué qu'elle poursuit actuellement une autre enquête qui traite notamment des conditions de vie des jeunes hébergés au centre quartier de Laval. Les conclusions devraient être rendues publiques d'ici la fin décembre. Appelé à réagir, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a déclaré faire un suivi très rapproché au niveau de l'hébergement des enfants à Laval. On n'a pas attendu après la Commission pour agir. Ces enquêtes de la CDPDJ surviennent au moment où les scandales s'accumulent dans le réseau des centres jeunesse et qu'une nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hills, dit vouloir mettre une grande lumière dans notre maison, dans toutes les garde-robes, dans toutes les pièces de la maison. C'était « La DPJ de Laval, montrée du doigt par la Commission des droits de la personne », un texte de Daniel Boily et David Gentilé, paru le 7 novembre 2024 dans Radio-Canada.